Yvonne Godeau, sociétaire et doyen de la Comédie-Française. Revue et corrigée par Nathalie Finzel, avec l'aimable autorisation de Jacques Roussel. Les Contes du Manoir Rose, ou Le Framboisier, œuvre posthume. Exergue. Toute ma vie de comédienne a été animée par le plaisir de vivre l'irréel et par l'amour du langage. Pour moi, un conte de fées n'est pas de la littérature. Un conte de fées, c'est la vie, celle qui nous échappe, mais que l'imagination nous permet de poursuivre dans la multiplicité, l'inconnu, qu'elle nous cache et nous propose tout à la fois. Je crois aux fées, je crois aux génies, aux fantômes. Je crois que notre soleil nous aveugle, que notre logique est une barrière, et j'aime vivre avec ce que je ne peux pas voir. Yvonne Godeau, L'étang la ville, 1985. L'âne pompon. Le framboisier est situé entre bois et pré, dans un plat pays. Il ouvre ses fenêtres comme des yeux d'enfant émerveillés sur la nature. Peut-être en orthographiant son nom, a-t-on voulu poser une énigme qui porte à l'interrogation. Franc, ce manoir l'est à l'évidence. Avec des fenêtres aussi largement ouvertes, on ne peut y mentir. Les bois environnants lui offrent un écrin qui, avec respect et douceur, le protège. Il est donc bel et bien le framboisier. Toutefois, les briques qui le composent, d'un rose puissant, évoquent ces exquises framboises chaudes de soleil lorsqu'on les cueille et pourtant si rafraîchissantes quand on les écrase entre la langue et le palais. Une équivoque demeure donc autour de son nom, lequel intrigue les visiteurs. Souvent, dans son courrier, grand-père remarque « framboisier » écrit avec un M, et cette innocente erreur lui est désagréable. Il tient à la simplicité de l'appellation du manoir, à laquelle il trouve un parfum moyenâgeux, mérité, puisque son origine remonte au XIIIe siècle. La maison est superbe. Tout le monde l'aime et l'admire. Habitée par grand-père et grand-mère, elle se met réellement à vivre pendant les vacances d'été, époque où elle devient le refuge de leurs petits-enfants, deux filles et un garçon. Ceux-ci sont parisiens toute l'année. Le retour au framboisier est toujours pour eux une fête. En quittant la ville, il est délicieux de voir évoluer sur les mares des prairies, les cannes et les canards, de trouver dans l'herbe leurs œufs semblables à d'énormes pâquerettes, d'assister aux ébats des juments et de leurs poulains, de jouer avec les chiens et d'entendre braire l'âne Pompon. Il faut l'avouer, Pompon est un âne qui braie beaucoup. Quand les enfants arrivent au framboisier, les juments, ses habituelles compagnes, ont déjà été conduites dans des espaces plus vastes que son enclos et où l'herbe pousse en abondance. Il reste ainsi seul à tondre un pré jauni et donne l'impression d'appeler au secours avec des accents lugubres. Pompon est un âne triste, mais robuste, qui n'a pas de croix sur le dos. Cela ne manque pas d'intriguer un œil averti et d'éveiller une forme de suspicion. Chacun sait que l'échine de l'âne est immanquablement marquée par la croix du Christ. Il a surréchauffé celui-ci auprès du bœuf à Bethléem et le porta sur son dos lors de la fuite en Égypte. C'est probablement au cours de ce voyage et en remerciement de l'inestimable service rendu que s'est imprimée cette trace indélébile. De ce fait, chez Pompon, ce dos sans croix est un véritable mystère. Quand l'âne pleure, beaucoup plus qu'aucun âne n'a jamais pleuré, grand-père et grand-mère prennent la situation très légèrement. « Il s'ennuie de ses compagnes les juments, disent-ils. En automne, quand l'herbe sera de nouveau haute, il les retrouvera et sera heureux. » Dans la maison, outre les grands-parents et les petits-enfants, s'active Zizine. Son prénom de baptême est Régine, mais dans le flot d'un zézément précoce, Zizine est apparue. Elle en est fière. La tendresse joue parfois des tours, rendant précieux ce qui devient parfaitement ridicule aux observateurs indifférents. Zizine est jeune, luisante comme une pomme bien frottée, car la vie au grand air lui donne bonne mine. La maison tenue par elle rutile, et, vertu non négligeable aux yeux de tous, elle fait de délicieux gâteaux. Chacun l'aime pour son activité joyeuse et l'affection qu'elle prodigue. Au framboisier, elle est chez elle. La famille est la sienne. Comme elle a le droit de cueillir des fleurs sur les terres alentour sans devoir rendre de compte à qui que ce soit, elle rapporte souvent de jolis bouquets qui mettent une dernière touche de couleur dans les pièces de la maison. Coquette pour elle-même, elle a la coquetterie du cœur. Au manoir, tous respirent la joie. Sauf Pompon. Et quelqu'un d'autre aussi. Au framboisier comme ailleurs, la vie est multiple. Les yeux des enfants et leur imagination savent percevoir ce que les adultes ont oublié. Au milieu de l'enclos de pompons pousse un être, et dans ce être loge une fée. Il faut savoir que chaque arbre a sa fée. C'est une des raisons qui incite à protéger les forêts. La fée du être de l'enclos redoute chaque année de voir arriver la belle saison, car alors que son arbre est au plus haut point de sa beauté, les braiements terribles de l'âne le secouent sans cesse. Il frémit si violemment des racines à son faîte que la fée est projetée en l'air. Elle tourbillonne comme un postillon libéré par un éternuement intempestif. Elle s'habitue mal à ses culbutes inopinées au-dessus de l'arbre. En outre, comme elle est distinguée et délicate, elle craint le ridicule et en souffre énormément. Elle s'aigrit donc contre son être et le houspille. « Tu n'as aucune maîtrise. Tiens le coup, que diable! Si tu continues à me traiter de la sorte, je prends mes clics et mes claques et je t'abandonne. Tant pis pour toi !» L'arbre gémit, sans répondre. Il sait que cette séparation serait déplorable pour lui, que sa vie dépend de sa fée tutélaire. Situations et humeurs sont souvent extrêmement tendues dans l'enclos, à cause de pompons. C'est ainsi qu'un matin, la fée n'y tenant plus, et malgré l'antipathie et les soupçons que Pompon lui inspire, elle s'adresse à lui. « Âne sans croix, quel être es-tu, et de quel droit troubles-tu mon repos? J'en suis réduite à courir la forêt pour échapper à ton vacarme. Ma réputation en pâtit, on m'appelle maintenant la vagabonde. Il est vrai que je ne sais plus où me mettre. Hors du pré, je suis en butte aux moqueries de mes congénères. Dans le pré, je suis persécutée par toi. Quand, épuisé, il m'arrive enfin de m'assoupir un peu, tes cris encombrent mon sommeil d'un bruit rouillé de vieilles serrures. Je rêve aussi que je suis broyé par la porte d'un château hanté. C'est intolérable! Mon arbre perd la tête et moi, je suis à bout. Je te préviens que si tu braies ne serait-ce qu'une seule fois encore, j'use d'un charme et je te pétrifie. » Ce premier et dernier avertissement, avant un châtiment exemplaire, est cruel aux oreilles de l'âne. Il fait un énorme effort pour retenir son souffle au son si discordant. Il pleure honteusement en silence. « Je suis une pauvre créature, » pense-t-il en battant les flancs de sa queue pour enchasser les mouches. « Autrefois, j'ai su être sincère, courageux, résolu. Il n'y a pas longtemps, et cela semble loin, si loin. » Les larmes descendent sur ses joues plates et lisses, pendant que tête basse pour se donner une contenance, il entreprend le tour du pré en mâchonnant un chardon. Sa réflexion et sa promenade à petits pas le calment un peu. Il revient près du être. « Je vais parler, » pense-t-il. « Qu'est-ce que je risque ?» Le regard tendu vers le feuillage dans lequel se tient la fée, il s'adresse à elle ainsi. « Fée, je suis un bon garçon qu'on a ensorcelé. Être pétrifié serait pour moi une délivrance, tant je souffre d'être le pauvre bourricot que je suis devenu. Je suis menuisier de mon état. Il y a 3 ans, au village voisin, il y eut une fête, des manèges, un cirque, beaucoup de bruit, auquel nous autres gens des campagnes ne sommes guère habitués. Je crois bien que cela me rendit un peu fou. J'allais à l'auberge avec des camarades, et l'aubergiste, une vieille femme, me fit boire. Elle me regardait fixement et m'encourageait. « Bois et ris, mon petit, bois, le vin amuse l'esprit, » disait-elle en emplissant encore et encore mon verre. Je fus bientôt ivre et tombai dans un profond sommeil. Quand je me réveillais, j'étais à l'écurie, devant la mangeoire à foin, retenue par des chaînes et pourvue de l'allure que j'ai aujourd'hui. J'étais en pleine épouvante quand l'aubergiste vint me tâter avec un bâton. « Tu étais beau garçon, tu es aussi belle âne !» me dit-elle, éclairant cruellement la réalité à laquelle je ne pouvais croire. « Tu as bien ri, pauvre idiot. Maintenant je vais te vendre à la foire, et je pourrai acheter un lit moelleux pour le prix de ta jeune carcasse. Tu me trouvais laide, n'est-ce pas, vieille et laide? Désormais tu es bien pire que moi. » Elle roulait des yeux terribles dans sa face ridée. Je la suppliais de me laisser partir, de lever le sort, de me rendre mon apparence humaine. « Non, non, » dit-elle, « tu es en mon pouvoir. » Je plaçai mon museau contre son ventre pour exprimer mon affliction et essayer de l'attendrir, l'inciter à la clémence. Elle ajouta avec moins de férocité. « Je suis assez bonne sorcière, je te donne une chance. Si un jour tu réussis à brouter des roses, le charme sera rompu et tu redeviendras garçon. » Elle s'esclaffa ravi de son affreuse farce, prit ses jupons à deux mains et se mit à danser. « D'ici là, je serai morte » chantonna-t-elle en s'en allant. Dans les jours qui suivirent, elle me fit conduire à la ville voisine par un ivrogne de ses amis. Et c'est là-bas que grand-père m'acheta. Il voulait un âne qui tirerait la petite voiture dont il avait fait emplette afin de promener les enfants. Arrivé au manoir, je me rebellais, je secouais les rênes. Il ne put m'atteler. J'étais au désespoir de n'être pas en mesure d'expliquer mon entêtement. Grand-père fut assez vite là d'essayer de me convaincre. « Quelle tête de mule !» disait-il, et répugnant à me frapper, il me laissa tranquille. « Oui, oui, dit la fée, j'ai assisté à cette arrivée mémorable. Quel tapage tu as fait le premier jour !»« C'était l'été, ajouta piteusement Pompon. J'espérais être délivré tout de suite. Les roses fleurissaient autour de la maison. Tous les étés, on croit que j'appelle les juments. Je me moque bien d'elles. Ce sont les roses que j'implore. » La fée a écouté avec intérêt et pitié. Elle hoche pensivement la tête. « Mon repos dépend de ta délivrance, lâche-t-elle. Mon garçon, la nuit prochaine, j'essaierai de dénouer cette pénible affaire. Tu aurais dû t'en ouvrir à moi plus tôt. » La nuit est tombée sur le framboisier quand vagabonde la fée sort de son arbre. Elle s'est munie d'une branche légère et feuillue. Elle s'envole en la brandissant comme un drapeau et se pose au second étage du manoir, sur le rebord d'une fenêtre. Celle-ci entrebâillée, il est facile d'apercevoir Zizine qui dort paisiblement. Vagabonde abandonne son poste d'observation et s'installe sur l'oreiller de la jeune fille. Elle commence à lui chatouiller la joue avec la branche. Zizine se tourne, se retourne, rêve qu'une mouche lui frôle le visage. « Bien, pense Vagabonde. Si je parle maintenant, son esprit va saisir ce que je vais lui dire. » Elle chuchote donc en détachant les mots. « Demain, quand tu entendras Pompon braire, va le voir au pré. Il a besoin de toi. Et surtout, cueille une brassée de roses avant. » Elle quitte la chambre sans bruit. « J'ai fait ce que j'ai pu, » dit-elle en survolant Pompon. « Laisse-moi tranquille maintenant et attends ta délivrance. » Le matin est radieux quand Zizine commence le ménage de la maison. Pompon la voit de loin jeter dans l'herbe, comme chaque jour, l'eau souillée avec laquelle elle a rincé le carrelage du bureau de grand-père. Il envoie dans sa direction un braiement déchirant. « Bonjour, Pompon. Tout va bien, il fait beau !» crie Zizine. « Tiens, il me semble que j'ai rêvé de lui, » se dit-elle. À ce moment, elle passe à l'angle de la façade, où un rosier grimpant lance dans l'air de longues tiges ponctuées de fleurs. « Je vais faire un bouquet pour madame. Quand elle descendra, elle sera contente, » pense Zizine, qui sent l'enthousiasme soulever son cœur. Pendant qu'elle choisit et cueille les fleurs, Pompon exhale un appel pathétique. « Il est fou, cet âne !» marmonne Zizine. « Je vais lui dire deux mots. » Son bouquet dans les bras, elle arrive à la clôture du pré pendant que Pompon réitère ses appels de façon frénétique. « Veux-tu te taire, Pompon ? Pourquoi es-tu si grincheux alors qu'il fait si beau ?» Elle s'approche pour lui flatter le nez. Pompon tend le cou et arrache les roses. Il les broute goulûment. Zizine pousse un cri de rage. Elle veut chercher un bâton pour taper sur ce méchant et stupide animal. Mais voilà qu'elle se frotte les yeux. Que voit-elle ? Les longues oreilles rapetissent, rapetissent. Le museau s'écourte, s'écourte. Les pattes de devant se dressent en l'air et diminuent, perdant leurs sabots, s'arrondissent, se transforment en bras musclés. Les pattes de derrière deviennent de solides jambes. Alors qu'elle croit devenir folle, Zizine voit, campé devant elle, un beau garçon souriant en jean et t-shirt. « Ouvre-moi la barrière, » dit-il à une Zizine abasourdie et tremblante. Il rit de bon cœur, se rappelant son proche passé d'âne. « J'ai brouté les roses, le charme est rompu, je suis redevenu humain. Merci Zizine, tu seras récompensé, n'en doute pas. » Il sort de l'enclos, prend la jeune femme dans ses bras et lui plante deux baisers sonores sur les joues. Elle est stupéfaite et persuadée d'avoir perdu la raison pour de bon. Clouée sur place, elle est prise d'un vertige et soudain tombe assise dans l'herbe. Vagabonde de son arbre a observé la scène. Elle s'empresse d'intervenir, se perche sur le chignon soigneusement torsadé de Zizine, met sa baguette en mouvement et déclare « Oublie, oublie, que rien ne reste dans ta jeune cervelle sans grande jugeote. Retourne cueillir un bouquet, tu diras à grand-mère. Je n'ai pas entendu Pompon ce matin. Je suis allée au pré, la barrière était ouverte. Pompon s'est sûrement sauvé cette nuit. Ou bien on l'a volé. Cela m'a tellement saisie que j'en suis presque tombée évanouie. Zizine passe la main sur son front. Elle se relève et, d'un pas mécanique, reprend le chemin de la maison pendant que Vagabonde rejoint son arbre et se félicite à haute voix. « J'ai fait du bon travail. Il me reste maintenant à effacer tout souvenir de l'esprit du menuisier, de ses proches et de son village. Un jeu d'enfant pour nous autres fées. La mémoire des hommes est si inconstante. » Malgré la piètre opinion qu'elle a du genre humain, Vagabonde est d'humeur délicieusement joyeuse. Les subterfuges qu'elle va employer pour jeter l'oubli l'amusent d'avance et elle est sûre d'avoir désormais une paix royale dans l'enclos.